Merci, Monsieur Borgeot. Alors, comme annoncé, nous allons passer maintenant à la situation européenne, d'abord, avec Wolfram Weisse, qui est professeur à l'Université de Hambourg, professeur de sciences de l'éducation, en sciences de l'éducation, spécialisé en pédagogie du fait religieux et de la religion, et qui parle surtout aujourd'hui en tant que chef du projet européen REDCO. J'explicite, la religion dans l'éducation, une contribution au dialogue ou un facteur de conflit. Et il va vous parler de la situation en Europe à cet égard. Merci.
Alors, bonjour et merci pour l'invitation. Ces 12 dernières années, le thème de la religion et la question de l'enseignement relatif aux religions a gagné en importance dans le débat public en toute Europe. Si le degré de pluralité religieuse varie dans les pays européens, il est toujours vrai que dans tous les pays d'Europe, il existe un développement dynamique vers une pluralité croissante concernant les langues, les cultures et religions. Ce processus était déjà observable depuis quelques décennies auparavant en Angleterre et aux Pays-Bas, et ensuite le processus a atteint l'Allemagne et entre-temps a aussi pris corps jusque dans les pays comme la Norvège et l'Estonie. Dans le contexte des régimes démocratiques, la pluralité est congruente avec les systèmes juridiques qui garantissent la protection et le droit à l'épanouissement des minorités. Il y a cependant encore beaucoup à faire. Dans tous les pays européens, les processus de changement appellent de nouvelles réponses afin que la diversité soit un atout pour la cohabitation humaine et non motif à malentendu, séparation et hostilité. Il ne suffit pas d'accepter une coexistence des gens de différentes origines linguistiques, culturelles et religieuses. Il est plus important de se rapprocher de la reconnaissance de l'un par l'autre, comme l'a montré Paul Ricoeur. Pour lui, les deux aspects sont importants. Reconnaître les différences de l'autre en se reconnaissant en même temps soi-même comme sujet agissant et responsable. C'est par une reconnaissance mutuelle que l'on obtient la certitude de son identité. Ce qui signifie que, dans la perspective de Ricoeur, la quête d'identité s'effectue non pas en se démarquant de l'identité des autres, mais en se référant à l'identité des autres. Ce point de départ a d'importantes conséquences, tant dans le domaine personnel que dans le domaine social. C'est dans ce cadre que la diversité religieuse acquiert de plus en plus d'importance. Si la connaissance et la reconnaissance de l'autre sont des éléments indispensables pour la connaissance de soi-même et pour être reconnu dans la vie sociale, la pluralité religieuse offre une chance pour pratiquer la reconnaissance réciproque. Cela est d'autant plus nécessaire que, comme on l'a longtemps pu supposer en Europe, comme mon collègue Borgeot a dit, la religion et la religiosité ne sont pas du tout marginalisées et bannies de la vie publique du fait d'une sécularisation croissante. C'est justement le contraire qui est vrai. Dans le contexte des sociétés européennes, on peut observer que l'importance de religion augmente à l'ouest et à l'est, dans le nord et dans le sud, aussi bien à travers des dialogues entre les gens de conceptions religieuses et non religieuses différentes qu'à travers des conflits et des tensions d'ordre social. Après une certaine absence des disciplines académiques diverses, comme par exemple la politologie, la sociologie et la philosophie, s'intéressent à nouveau à la religion. Jürgen Habermas est un exemple significatif à cet égard. Après avoir ignoré le sujet de religion pendant quelques décennies, il en reprend depuis quelque temps l'étude et souligne la grande importance d'une tolérance interreligieuse pour nos sociétés interculturelles. Et en France, on parle déjà du retour du religieux dans la sphère publique. Jean-Paul Willem. Depuis le 11 septembre 2001, les dangers qui sont éventuellement liés à une instrumentalisation religieuse ont pénétré la conscience des gens au niveau mondial. Les défis qui se présentent sont multiples. Il n'est pas seulement demandé de reconnaître la religion et la religiosité dans leur importance croissante, mais aussi dans leurs expressions et fonctions ambivalentes. À cet égard, le domaine de l'enseignement joue un rôle très important. Il faut analyser la religion non seulement comme cause de préjugés et conflits, mais aussi comme potentiel pour créer un dialogue et une cohabitation pacifique parmi les populations d'Europe. Andreas Hasenclever, un politologue de Tübingen, de l'Université de Tübingen en Allemagne, a souligné la grande importance de l'enseignement interreligieux et interculturel. Il défend la thèse qu'il existe une corrélation entre l'enseignement relatif aux religions et l'attitude politique. Le plus faible est le degré d'enseignement, Andreas Hasenclever dit, le plus grand est la possibilité que les différences religieuses soient exploitées à des fins de mobilisation politique. Pour cette raison, l'enseignement relatif aux religions en Europe est plus que jamais important. Au-delà des analyses propres à certains pays européens, il est en effet important d'avoir le cadre général de l'Europe pour développer des considérations plus approfondies. La présente esquisse sur le projet de RETCO et d'autres thèmes est faite pour cela. Et maintenant, c'est un paragraphe sur ce projet de RETCO. Pendant les dernières années, la formation en matière de religion a retenu une attention toujours croissante au niveau européen. D'une part, cette attention s'exprime par des publications, bien sûr, d'autre part, par l'intérêt des institutions européennes elles-mêmes, comme le Livre blanc du Conseil d'Europe de 2008. Il est étonnant de voir que finalement, après longtemps et beaucoup d'hésitation, on est intéressé et prêt de ce côté à penser aux questions relatives à l'enseignement relatif aux religions. Dans une recommandation du Conseil de l'Europe de 2008, on recommande aux 47 gouvernements des États membres, je cite, de poursuivre des initiatives dans le domaine de l'éducation interculturelle concernant la diversité de religions et convictions non religieuses afin de promouvoir la tolérance et le développement d'une culture de vivre ensemble. Fin de la citation. Incroyable pour le Conseil d'Europe avant 2005 ou 2002. Il y avait des liens entre les discussions dans le Conseil d'Europe et la recherche du projet RETCO. Le projet de RETCO était soutenu par le département de recherche scientifique de la Commission européenne depuis mars 2006. C'est le premier et jusqu'à présent aussi le dernier projet financé avec une somme au-dessus d'un million d'euros pendant 3 ans. Cela nous montre que l'Union européenne s'oriente beaucoup plus qu'auparavant vers les thèmes des valeurs et de la religion en Europe. Et en même temps, il faut dire, la recherche de RETCO a aussi influencé les débats et documents du Conseil de l'Europe. Laissez-moi donner vous une vue d'ensemble ce qu'on a fait dans le projet, mais je vais me focusser sur les résultats. L'objectif principal du projet était l'analyse et la comparaison des responsabilités et des limites de l'enseignement relatif aux religions à l'école publique dans les pays européens. À travers des analyses historiques et contemporaines, on cherchait des approches et des constellations dans lesquelles l'enseignement relatif aux religions peut devenir un facteur incitant au dialogue pour le développement de l'Europe. À travers des analyses théoriques et de l'impact de l'enseignement relatif aux religions sur le processus de transformation dans le pays européen, on a vu le suivant. Le résultat de notre projet aide de manière significative, je pense, à reconnaître comment aborder à l'école avec des enfants et des jeunes des questions élémentaires de religion et de la religiosité afin de renforcer le respect des différences et des valeurs communes. Le projet se concentre sur la question de savoir comment il est possible de s'identifier à sa propre religion et ses valeurs non religieuses, tout en contribuant à une identité européenne collective, pensée non comme un bloc monolithique, mais plutôt comme une pluralité orientée vers le dialogue. Je vais seulement mentionner que les pays où on a fait des recherches, c'était l'Estonie et la Russie dans l'Ouest, dans l'Est, la Norvège dans le Nord, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, l'Angleterre et l'Espagne. Dans tous les projets, on a fait des recherches théoriques et je veux seulement souligner, on n'a pas eu une vision de religion dogmatique, mais plutôt une définition en référence à Emmanuel Levinas, qui parle de religion de voisins. De la religiosité de nos voisins en classe, à l'école, dans le quartier et dans la société en général. C'était plutôt une religion vivante. Et dans le domaine empirique, il ne faut pas expliquer trop, mais on a utilisé un mix de méthodes pour avoir des résultats approfondis selon des règles empirique. Maintenant, nos résultats. On a discuté les résultats pendant 6 mois, je pense. Si vous pensez que des collègues de la France et de l'Estonie, par exemple, et de l'Norvège et de l'Espagne font des interprétations sur les dates, ce n'est pas très facile pour arriver à des résultats où tout le monde dit oui, ce sont des résultats pour tous les pays. Je veux seulement mentionner 7 résultats. La figure 7, c'est aussi nécessaire. Premièrement, une majorité d'élèves apprécient la diversité religieuse et de conception du monde de leur société, même si certains préjugés ont été exprimés. Deuxièmement, les principales sources d'informations sur les religions et les conceptions du monde sont généralement la famille et l'école. Troisièmement, quelle que soit leur position religieuse, une majorité d'élèves est intéressée par un enseignement relatif aux religions. Et c'est vrai pour la France et pour l'Estonie, pour la Norvège que l'Espagne, pour l'Allemagne que pour les Pays-Bas. Quatrièmement, les élèves souhaitent une coexistence pacifique entre les diverses religions et croient que cela est possible. Cinquièmement, les élèves expriment le souhait d'un enseignement des faits religieux prenant place dans un environnement scolaire sécurisant, régulé par les procédures partagées afin de pouvoir s'exprimer et discuter de ces sujets en toute sérénité dans la salle de classe et dans une autre façon que dans la société, soit la famille ou les paroisses. Sixièmement, les élèves préfèrent généralement éviter des conflits à propos des questions religieuses et certains des élèves engagés sur le plan religieux se sentent particulièrement vulnérables. Et dernièrement, les enseignants favorisent le dialogue comme une stratégie éducative appropriée à la gestion de la diversité religieuse dans la classe. Sur la base de ces résultats, on a formulé des recommandations en matière de politique publique et j'évoque seulement ceux qui me semblent les plus importants pour notre thème. Une recommandation de RETCO était promouvoir la gestion de la diversité à l'école. Et je cite, une certaine éducation de citoyenneté tend à privilégier l'uniformation. Cependant, l'encouragement est nécessaire à une diversité religieuse et philosophique au sein de l'école comme à l'université. Et comme action nécessaire, on a formulé offrir aux élèves l'opportunité d'apprendre à connaître les différentes religions et conceptions du monde, leur permettre de bénéficier d'un espace de discussion sur les questions religieuses et philosophiques. Et l'enseignement relatif aux religions, quelle que soit sa forme, devrait inclure l'apprentissage de la compréhension mutuelle et de la tolérance, et ce en prenant en compte les besoins des élèves selon leurs différents niveaux de maturité. Et à la fin, je voudrais souligner une recommandation sous le titre « Inclure les visions du monde religieuse comme non religieuse ». Et là, on peut lire « Inclure l'apprentissage des différentes religions et visions du monde, du monde séculaire dans leur complexité et en tenant compte de leur diversité interne ». Fin des citations. Vous voyez, à part des différences, ce qui n'est pas étonnant lorsqu'on se rend compte que nous faisions notre recherche de l'Estonie et de la Russie de l'un côté jusqu'à la France et l'Espagne à l'autre côté, nous avons également trouvé des résultats communs. Et ils sont le plus intéressant et impressionnant comme nous avons des centaines de citations des élèves et aussi des figures quantitatives, ce que je ne veux pas montrer maintenant ici. Et pour les résultats communs, il faut dire l'une que nos dates montrent très clair qu'en dépit des préjugés qui existent entre les jeunes, ils ont, pour le dire en général, une grande appréhension pour les différences culturelles et religieuses. C'est une nouvelle génération. Cela donne du courage que les jeunes dans les pays d'Europe où nous faisions notre recherche pourraient suivre un chemin du dialogue et pas de l'enfermement contre autres autour d'eux. Les jeunes se rendent compte que les conflits peuvent avoir une source dans les religions, mais en même temps, ils sont d'avis qu'il soit bien possible de vivre ensemble en paix avec des hommes et femmes de différentes religions dans ces pays et l'Europe. Mais afin qu'une telle possibilité pourrait être saisie, l'école joue un rôle extrêmement important. Prochain paragraphe, je veux expliquer ça sous le titre « L'enseignement relatif aux religions en mutation, le cas de France, de la France ». Il faut dire en général que les approches de l'éducation relatives aux religions sont dans un processus de changement partout en Europe. Le cas de la France pourrait nous donner quelques explications. La France est l'État, oui, tout le monde le sait, où la laïcité est implantée depuis plus de 100 ans. On pourrait regarder la France comme un bastion pour une laïcité forte, peut-être aussi Genève, je ne sais pas exactement. Et en même temps, il faut dire que même en France, il y a des changements considérables. Trois illustrations. Dès 1995, Paul Ricoeur, le même auquel j'ai fait référence au début, a prononcé un point de vue innovateur. Écoutons ce qu'il a dit à la radio. Je cite, « Je trouve, Paul Ricoeur, je trouve tout à fait incroyable que dans l'enseignement public, sous prétexte de laïcité et d'abstention propre à l'État, on se présente jamais vraiment dans toute la profondeur de leur signification les grandes figures du judaïsme et du christianisme. On arrive à ce paradoxe que les enfants connaissent beaucoup mieux la panthéon grec, romain ou égyptien que les prophètes d'Israël ou les paraboles de Jésus. » Fin de citation. Et je pensais aussi à un argument que vous avez pris à Genève. Puis la deuxième illustration, les discussions sur la compréhension de ce que la laïcité signifie s'est développée en France comme suivant. De la laïcité d'abstention ou d'ignorance vers une laïcité d'intelligence, je pense que c'était Régis Debray qui a utilisé ça, jusqu'à une laïcité de reconnaissance du religieux et de dialogue. Laïcité de reconnaissance du religion et du dialogue. Pourquoi un tel développement? Jean-Paul Willem de Paris nous donne la réponse suivante, je cite. Il ne faut pas tromper d'époque. En ce début du XXIe siècle, les réconfigurations du religieux et du politique imposées en Europe, une pratique de la laïcité ouverte aux apports des religions dans la vie sociale. Le renoncement des religions au pouvoir politique et le renoncement des politiques au pouvoir spirituel permettent la mise en œuvre d'une laïcité de reconnaissance et de dialogue. Fin de citation. Voilà, la situation a changé et c'est pourquoi il faut arriver à une nouvelle interprétation et appréhension d'une laïcité de reconnaissance et de dialogue, comme l'a dit Jean-Paul Willem. Et la troisième indication, dans le cadre d'une telle situation, il est évident que même en France, on essaie de plus en plus d'intégrer les thèmes religieux dans l'école publique, pas comme matière additionnelle, mais comme élément dans matière comme histoire, art, langue, etc. C'est-à-dire la France montre très clairement que même dans une société strictement laïque, un enseignement relatif aux religions est considéré comme important pour le secteur des écoles publiques. Et si c'est le cas pour la France, c'est d'autant plus vrai pour d'autres pays en Europe. Conclusion. Je voudrais résumer en 5 points. Premièrement, parler de religion à l'école permet de mieux appréhender la diversité culturelle et religieuse qui existe dans nos sociétés, de mieux connaître l'origine de nos traditions tout en s'intéressant à d'autres modes de pensée et de favoriser l'apprentissage du dialogue et du respect entre individus dans l'école comme dans la société. C'est clairement un moyen de renforcer la cohésion sociale au sein d'une population européenne de plus en plus diversifiée. Et ce n'est pas un sauf-conduit pour réintroduire des organisations religieuses dans les écoles. On a vu aussi dans nos dates des élèves en toute Europe. Ils ne veulent pas avoir une influence des institutions hors de l'école, soit des organisations religieuses, soit des organisations politiques ou économiques. Bien au contraire, cela peut fonctionner qu'à la condition d'une séparation de l'État et des religions, comme Paul Willem l'a dit. Deuxièmement, comme d'autres pays, même la France a pris l'initiative de développer un enseignement des faits religieux dans l'école laïque, comme on a vu. Il ne s'agit pas d'imposer un système unique d'enseignement relatif aux religions en Europe, mais il est important que, quelles que soient les voies suivies par les systèmes éducatifs des différents pays, les élèves et les jeunes acquièrent une connaissance et une reconnaissance des différences. Troisièmement, le canton de Genève ainsi a mis sur pied un enseignement présentant de grands textes anciens comme plus récents, émanant des courants religieux et philosophiques les plus divers, monothéistes ou non. On a écouté ça. Le canton de Genève a installé un enseignement qui suscite, comme le dit le conseiller d'État Charles Baird, je cite, « une réflexion sur la multiplicité des cultures et des sociétés dans toute leur pluralité ». Fin de citation. Je pense que ça convient très bien avec ce qu'on pense en Europe, dans les organisations comme le Conseil de l'Europe, mais aussi les jeunes qui prennent une nouvelle route, et le conseiller d'État le fait aussi. Et mon cher collègue Philippe Borgeau écrit « Apprendre à vivre ensemble avec des différences essentielles implique de faire de la classe un espace de pensée libre où l'on peut débattre des différences et exercer la comparaison ». Et il continue « Et si on arrive à faire passer ce regard un peu lointain dans les écoles, on pourra peut-être regarder les croyances de l'autre avec une meilleure compréhension et une plus grande sensibilité. » Merveilleux. Quatrièmement, c'est tout à fait une vision qui est établie aussi par notre recherche, ce que vous dites et que vous faites. Il est nécessaire d'ancrer la religion à l'école et à l'université pour que des élèves et les étudiants puissent trouver un espace pour discuter entre eux de ce qui se rapporte aux religions, mais pas dans le sens d'une confrontation. Il est important que les voies suivies conduisent à la reconnaissance des autres et à être reconnu par d'autres, comme le souligne Paul Ricoeur, par exemple. Occasion pour trouver dans le contexte européen une façon de renforcer l'apprentissage de l'enseignement en matière religieuse et interculturelle dans les écoles et les universités. Et enfin, cinquièmement, l'approche du canton de Genève ouvre, à mon avis, une voie respectable et importante pour toute l'Europe, qui est tout à fait remarquable pour utiliser la diversité religieuse et culturelle des élèves comme un instrument de compréhension mutuelle. Elle constitue un bon exemple de la façon dont une école publique laïque et démocratique peut faire preuve d'intelligence dans sa prise en compte du phénomène religieux. Merci.
Merci, Monsieur Weiss. Nous avons un petit quart d'heure pour des questions éventuelles suscitées par cette intervention. Je scrute. Je ne vois pas de main se lever. Donc, je vais essayer de lancer ou stimuler un peu à en poser en opposant une première. Monsieur Weiss, vous montrez au fond à quel point il y a une attente importante à l'égard d'un enseignement des religions à l'école, dans une Europe malmenée par la globalisation, si on peut dire. Et au fond, la question que je me posais, c'était, est-ce que dans vos recherches, vous avez déterminé, au fond, quelles conditions devraient être remplies pour que les enseignants soient à même d'assurer ce cadre sûr dans lequel discuter des différentes religions, enfin, assumer ce rôle très, très important, finalement, que vous attribuez à l'école.
Ouais. Faut pas utiliser ce quart d'heure parce que la conférence va jusqu'à 2 heures et je vais avoir une deuxième possibilité dans la table ronde. Mais pour le dire, je pense que c'est un mot-clé qui dit oui, il faut avoir un espace protégé et sécur. Si les élèves ont un espace à l'école où ils sont libres d'exprimer leurs opinions, puis ils aiment bien de parler de la religion. Pour le temps libre, après l'école, lorsqu'ils fêtent, etc., la religion n'est plus intéressante. Imagine les jeunes entre 14 et 16 ans, ils ont aussi d'autres thèmes, bien sûr. Mais l'école, si l'école donne un forum, un espace pour savoir plus de la religion et pour s'entretenir et entrer en débat et en discussion sur la religion, ça, les enseignants, ils aiment ça beaucoup. Et il faut aussi dire que ceux qui n'ont pas de lien religieux, c'est le seul forum qui existe, parce qu'en famille et entre eux, ils ne parlent pas de la religion, mais à l'école, ils sont intéressés parce que ce sont des questions profondes et ils aiment aussi la diversité prononcée en classe. C'est beaucoup plus intéressant que d'écouter que le prof a dit et tout le monde est luthérien ou calviniste, ou etc., etc. Tout le monde doit suivre le pape ou une chose comme ça. C'est pas intéressant. Peut-être pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour la population. Mais la diversité compte. Et puis la diversité ne mène pas à une discussion où toutes les choses sont mêlées. Tout au contraire. On a fait des vidéos en classe en toute Europe. Et on a vu la discussion à la base de diversité de points de vue religieux et non religieux, mène aussi que les élèves doivent réfléchir. Ils ne peuvent pas dire tout le monde est catholique ou tout le monde, on sait que comme calviniste. Non. Puis c'est un C'est une musulmane qui avec une question, mais qu'est-ce que tu penses comme calviniste? Et que sont les sources? Que sont les grands textes? Et c'est pourquoi j'admire beaucoup que vous avez introduit les grands textes religieux et non religieux, parce que c'est aussi un lien entre eux. Paul Ricoeur a dit que c'est une amputation de ne pas parler de la religion à l'école, parce que comment comprendre les arts, la littérature, la peinture, si on ne sait rien de la religion.
Monsieur Weiss, je vois qu'il y a des questions qui ont surgi pendant votre exposé, donc je me permets de vous couper la parole pour permettre d'en poser une ou deux. Il y avait monsieur là, monsieur ensuite. Oui,
c'est tout à fait intéressant cette relation entre connaissance de l'autre, connaissance, donc reconnaissance. Mais on a un petit problème d'articulation. Ouvrir le débat, l'échange entre les élèves, oui. Mais nos élèves sont jeunes, ils n'ont pas toujours la maturité, je dis aussi la majorité, dans mon lapsus. Et dans ces débats, ils ont envie de convaincre et de persuader les autres. Ce qui veut dire qu'on a une articulation extrêmement délicate. Oui. Découvrir l'altérité de l'autre, se découvrir, se reconnaître dans nos différences religieuses, lancer un débat, mais ça ne veut pas dire pour ça faire du prosélytisme. Et toute la difficulté de nos jeunes, on va dire entre 12 jusqu'à 18 ans, c'est que dans la passion de ces débats, à un moment donné, ils vont avoir cette tendance à dire « Ah oui, mais... ma communauté religieuse, elle a mieux compris théologiquement. On est quand même les meilleurs. On est plus près de Dieu. On est sur la meilleure voie. Nous, on a le meilleur chemin. » Il faut ramener ces jeunes, leur dire, attendez, la découverte de l'autre ne veut pas dire que vous allez essayer de lui dire que vous avez la meilleure voie. Et c'est difficile. Nous, à plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, on arrive à faire le distinguo. On dialogue, mais on ne va pas faire de prosélytisme. Mais vous savez, pour un jeune de 15-16 ans, ce n'est pas facile. Et là, il y a certainement le travail des adultes pour leur dire « Essayez de vous découvrir, mais ne faites pas la promotion de votre Église. »
Merci.
Merci. Je ne suis pas sûre que c'était à proprement parler une question. C'était au contraire une intervention très, très riche, mais je ne suis pas sûre qu'elle nécessite forcément une réponse de votre part. Il y avait une question ici aussi. Je crois qu'on va avancer, monsieur. Question.
Je vais répondre tout de suite.
Il y avait une question, non? Alors, en deux mots, comment est-ce qu'on évite le risque de prosélytisme?
Peut-être deux phrases. On a fait aussi une recherche sur cette question et on a remarqué qu'en classe, c'est une mauvaise possibilité de faire des prosélytismes, parce qu'en classe, c'est aussi une grande distance si quelqu'un veut convaincre autre. Mais ce qui est vrai, ce sont des coalitions très étonnantes, parce que quelquefois, des musulmans et des chrétiens forment une coalition lorsqu'on parle de l'existence de Dieu, par exemple. Irrespective de différences religieuses, ils ont l'impression qu'un Dieu existe. Et on a aussi interrogé des musulmans et des chrétiens après, et quelques-uns ont dit, mais aussi les autres qui n'ont pas de lien religieux, ils ont aussi raison. C'est-à-dire, à mon avis, c'est une discussion ouverte, et c'est aussi le devoir de professeur, si vraiment un chrétien ou un musulman veut convaincre autre, de dire non, c'est pas le lieu à l'école de le faire, c'est même pas une possibilité de convaincre autre de ce que vous pensez vous-même. C'est pas le but d'instrumentaliser la classe pour faire du prosélytisme. Mais ce n'était pas nécessaire de ce qu'on a vu. Mais merci pour votre question.
Alors, je pense qu'on a le temps d'en prendre encore une, en tout cas. Il y avait une demande ici.
Est-ce que la Pologne est un contre-exemple? Cette semaine, des résultats d'une étude ont été publiés qui montrent que 41% des jeunes polonais ne voudraient pas avoir des juifs comme voisins. Est-ce que c'est la preuve qu'il n'y a pas d'enseignement à la tolérance en Pologne, ou est-ce que ça démontre que vos résultats mériteraient d'être étendus à d'autres pays pour acquérir une valeur plus convaincante?
Je pense, là, en dépit que je suis en faveur d'un enseignement religieux très fort et de dialogue, il ne faut pas surcharger une matière de deux heures par semaine. Je pense plutôt une réflexion de ce qui se passe en société. Et on voit dans tous les pays de l'Europe que l'antisémitisme a une tendance croissante. Et la seule chose qu'on puisse faire et devrait faire, c'est d'introduire ou renforcer des matières aux écoles qui montrent différence, est une chose qui est nécessaire dans les démocraties, mais une exclusion à cause des différences, ça n'appartient pas à une société démocratique. J'ai justement vu la télé ce matin et président Obama, après les atrocités à Boston, il a dit « la diversité nous donne la force ». Dans une telle situation, il a dit, la diversité nous donne une force, en dépit que des choses qui puissent se dérouler comme à Boston. Et je pense l'école entière, mais aussi l'enseignement religieux, a une responsabilité pour augmenter la possibilité des jeunes qui vont être les responsables après pour respecter une différence et de ne pas croire que les autres sont une menace. Les autres ont aussi une place dans la société, comme moi-même veux aussi avoir une place dans la société, à l'école et après aussi.
Je vous remercie. Une dernière question. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a réussi à s'emparer du micro. Là.
On me l'a donné.
Non, je pense bien.
Vous avez beaucoup fait intervenir des auteurs français. Paul Ricoeur, Willem, etc. Je me suis demandé, en vous écoutant, si c'était pour faire plaisir à un auditoire francophone, ou si, au contraire, on peut considérer que, en France, la laïcité confrontée à la diversité a provoqué une réflexion qui a un peu d'avance sur le reste de l'Europe. Voilà. Je suis intéressé de savoir où en est le débat dans des pays comme l'Allemagne, que vous avez aussi, ou l'Espagne, sur ces questions. Est-ce que les inspirations de la laïcité française y ont cours et s'y développent?
5 minutes pour répondre.
Ah ouais. Je voudrais vous aussi faire plaisir, mais je cite Paul Ricoeur et Emmanuel Levinas et Jean-Paul Wilhelm aussi en Allemagne. Je pense, et c'est pourquoi j'ai pris le cas de la France, en France, c'est une situation la plus compliquée pour propager, pour introduire les thèmes de religion à l'école. Pour tous les autres pays, c'est plutôt une question des approches, comme en Allemagne. Je voudrais bien vous parler beaucoup de l'Allemagne et de Hambourg aussi. on a une autre approche qu'à Genève, mais je pense aussi la tendance est très similaire. Il faut s'ouvrir à la pluralité de religions et de cultures. Et on voit que la nouvelle génération, pour eux, c'est normal, c'est leur vie. Ils grandissent avec une pluralité. Mais c'est là où il faut saisir la situation et renforcer une sorte de pensée libre et du respect, etc. Parce que lorsqu'ils sortent et lorsqu'ils sont, lorsqu'ils n'ont pas de travail, par exemple, lorsqu'on a des problèmes dans la société, puis on connaît comment ça fonctionne d'instrumentaliser des religions et des pensées, plus en société qu'à l'école. Mais moi, je suis mieux que d'autres. Je n'ai pas de travail, mais je suis mieux à cause de cela et c'est cela. Et renforcer un mode de pensée à l'école, que c'est nécessaire d'avoir une reconnaissance mutuelle, je pense que ça pourrait être un forfait aussi pour le développement dans l'école et après l'école.